l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. À Paris, je suis passée dans les locaux de l'Indépendante. C'est pas un bar, même si les discussions vont bon train. C'est pas un journal, même si on parle de politique, de choses réelles et parfois aussi un peu utopiques. Ici, tout converge vers deux grands placards. Et quand on les ouvre, on tombe sur des produits secs. Pois chiches de Lyon, pâtes made in Île-de-France, dentifrice, miel, huile d'olive palestinienne, tiens. Ici, la coopérative d'habitants met en place un circuit très court de produits locaux le plus possible, favorisant des modes de production respectueux des hommes et de leur environnement, et achètent tous ces produits, sans en négocier le prix, directement auprès de leurs producteurs. La preuve qu'une autre économie est possible et qu'une alternative à la grande distribution fonctionne dans la bonne humeur.
Ah ouais, super. Ouais.
Sinon, on a... ouais,
mais sinon, on va à la map.
Ouais.
Et puis, oui, on peut faire ça aussi.
On va faire comme ça.
Mais si la
faute. On va faire un.
Ça propose une longueur momentanée, c'est-à-dire
Hervé,
un moment. Un moment, c'est pas long.
Hervé, et alors l'indépendant?
Tu veux présenter l'indépendante ou...
Je vais essayer de présenter l'indépendante. Donc Pascal, voilà, de l'indépendante, qui est une épicerie coopérative, forme juridique association loi 1901. Donc l'idée, en fait, c'était que les gens, ils allaient dans les AMAP pour avoir des produits frais et ils retournaient dans les supermarchés pour acheter des produits secs. Des produits d'épicerie. Et donc, ils auraient aimé sortir complètement du supermarché. Donc, l'idée a été lancée dans les réseaux des gens des AMAP pour se retrouver, essayer de monter une structure qui permet justement de ne plus aller au supermarché. Donc, il y a eu une réunion lancée. Dès le début, il y a une petite cinquantaine de personnes. Et c'est autogéré. Il n'y a pas de président, de trésorier. Tout le monde participe et donne, je dirais, le temps ou l'énergie qu'il veut. Il n'y a aucune obligation de passer une commande ou de participer à une livraison. Chacun fait comme il le peut et comme il le veut.
Et en fait, là, vous avez sur des étagères des produits. Comment ça se passe? C'est là, vous n'êtes pas obligé de dire « moi, je veux ça, ça, ça ». Vous faites une commande en gros et après, vous venez, vous servez.
C'est-à-dire qu'on se retrouve tous pour organiser une commande, organiser sa réception et mettre les produits sur les étagères. Parce qu'en fait, notre épicerie, ça ressemble à deux grands placards, 8 mètres cubes. Et on est dans la salle de réunion juste à côté. Donc on est hébergé par un lieu qui s'appelle la Maison Verte, à Paris, dans le 18e. Qui généreusement ont ouvert leurs portes pour qu'on s'installe ici. Et une fois par semaine, l'épicerie ouvre. Il faut adhérer pour pouvoir acheter, puisqu'on revend sans marge, à prix coûtant, au prix où on achète les produits, en direct le plus possible aux producteurs. Chacun fait ses courses. Et après, il y a un moment où on se réunit pour organiser la vie de l'épicerie. C'est-à-dire choisir quel produit, quelle quantité on va commander, faire un peu de comptabilité.
Okay, bah merci beaucoup, à bientôt.
C'est
cool. À bientôt.
À la prochaine.
Je vous fais un mail avec tous les produits.
Merci. Vous êtes venu ici aujourd'hui pour proposer vos produits en tant que producteur à des gens qui se sont regroupés à l'indépendante, c'est ça?
Voilà, ouais, je cherche à faire un petit peu de vente directe. De mes produits céréaliers, légumineuses, etc. Et comme on livre un petit peu de légumes sur Paris, nous on a une petite exploitation maraîchère aussi. Et tous les samedis, on livre à Paris. Donc moi je voulais en profiter pour trouver un petit peu de vente directe sur Paris.
Ça, c'est important pour vous en termes de revenus, la vente directe, c'est quand même extrêmement intéressant.
Pour les petits producteurs, oui. Surtout les légumes, nous on a 2 hectares de surface à peu près, un maraîchage. Donc la vente directe, c'est 100% de notre débouché. Et pour les grandes cultures, bah, c'est de la diversification et puis un petit peu plus de revenus et puis surtout de contact avec les gens à qui on vend de la nourriture. Quoi. C'est plus intéressant aussi sur le plan humain, tout simplement. Quoi. Les légumes, bon, on travaille à 95% en AMAP. Donc c'est un rapport direct avec des gens qu'on voit toutes les semaines, et, des visites de la ferme, du jardin. On accueille beaucoup les gens avec qui on travaille. Mais ça n'a rien à voir que de passer par un marché où les gens, on les voit pas, ou les magasins où c'est un peu plus superficiel, quoi.
Alors vous, ça vous fait plaisir peut-être aussi de partager la connaissance de votre ferme, expliquer des choses sur comment on fait pousser les légumes, etc.
Oui, oui, parce qu'en général, les gens qui nous achètent en vente directe, comme par le circuit des AMAP ou les coopératives, c'est des gens qui sont très demandeurs de savoir vraiment d'où viennent les produits, comment ça a poussé, etc. Et de notre côté, nous, c'est beaucoup plus enrichissant et c'est de la reconnaissance, quoi. C'est ce que beaucoup de paysans recherchent aussi.
Et puis le plaisir peut-être pour les gens qui font partie donc, de cette association pour le maintien de l'agriculture paysanne, de cette AMAP, d'aller sur le lieu, de pouvoir peut-être cueillir eux-mêmes ou comment ça se passe, il y a des travaux participatifs ?
Oui, des petits chantiers découvertes où les gens ils viennent avec plaisir. Nous, en plus, on peut les accueillir, les gens de Paris, pour passer un week-end et venir participer un petit peu, faire de la cueillette, du désherbage, des choses comme ça et voir comment ça fonctionne au quotidien, quoi.
Alors, ça veut dire quoi ? Ils viennent avec leur tente et ils campent dans vos champs ?
Non, la ferme, elle est grande parce que c'était la ferme familiale sur laquelle j'ai grandi. Et voilà, il y a plusieurs chambres. Il y en a qui campent, qui viennent pour camper, qui veulent vraiment le contact avec la nature, quoi. C'est assez grand, donc on accueille beaucoup de monde.
Alors vos parents, ils étaient agriculteurs aussi ?
Mon père, oui, et mes grands-parents surtout.
Ils faisaient de la vente directe ?
Très peu, c'était une ferme à l'époque de mes grands-parents, c'était céréales et élevage. Et bon, les petites fermes d'élevage ont toujours fait de la vente directe aux villageois. Je me souviens quand j'étais petit, les gens venaient le soir pour acheter un petit peu de lait. Mais sinon, c'est quand même des circuits longs. Et mon père avait arrêté l'élevage, donc il n'y avait que des céréales. Donc là, c'est plus du tout de vente directe.
Il était un peu tout seul sur son tracteur et vous avez voulu faire autre chose.
Oui, c'est ça. J'étais parti dans autre chose. Et puis, quand il est arrivé vers l'âge de la retraite, j'ai senti le besoin de faire en sorte que la ferme ne disparaisse pas, qu'elle ne parte pas à l'agrandissement. Et en plus, c'était l'occasion de tout passer en bio et de faire un beau projet, quoi.
Et alors aujourd'hui, c'est vrai que comme les gens qui sont à l'indépendant de cette coopérative où on est, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. La vente directe pour les producteurs et pour les consommateurs, ça intéresse beaucoup de gens.
Oui, oui, on sent que c'est un mouvement de fond. Souvent, on nous dit que c'est une mode, mais moi, je sens que c'est un peu plus profond que ça. À travers les AMAP, les coopératives, c'est un petit peu ce mouvement global de raccourcir les circuits et d'avoir plus de contact avec les producteurs, de savoir d'où ça vient.
Pour vous, c'est un mode de vie, et puis pour les consommateurs, ça signifie beaucoup de savoir d'où vient ce qu'ils consomment et à qui ils donnent leur argent, en fait, aussi.
Oui, oui, voilà. Et puis soutenir un mode d'agriculture... C'est soutenir une production écologique, tout simplement, et à taille humaine.
Al felle que fe que reca.
Nous, on fait une AMAP sur Paris le samedi matin. La ferme, elle est à 150 km. Dans la charte de l'agriculture paysanne locale, c'est à peu près 200 km maximum.
Bah oui, parce que tous ces pauvres Parisiens, il faut bien les nourrir. Il y a quand même presque 10 millions de personnes et il faut aller un peu loin, forcément.
Ouais, et puis la ceinture verte de Paris, elle est devenue très céréalière. Il n'y a plus beaucoup de production locale.
Alors la ceinture verte, ça veut dire qu'avant, il y avait plus de production locale autour de Paris?
Quand il n'y avait pas beaucoup de camions, qu'il n'y avait pas de gros marchés, les producteurs étaient forcément aux portes des villes, pour toutes les grandes villes. Mais ça s'est perdu.
Alors vous produisez des produits pour les Parisiens, mais les habitants de votre secteur, donc dans Lyon, comment ils font pour se nourrir? Il y a beaucoup de fermes de votre type vers chez vous?
Alors chez nous, c'est un peu plus intermédiaire, mais c'est quand même une région céréalière. Il y a assez peu de légumes qui sont produits localement. Mais il y a des AMAP qui se développent, il y a des marchés, donc il y a une petite production locale. Il y a des jeunes qui s'installent aussi en maraîchage bio, ça se développe un petit peu.
D'accord. Donc la ferme des cailloux, c'est bien ça?
La ferme aux cailloux, dans Lyon.
C'est énorme. C'est pour ça explique c'est...
Il y a un côté...
C'est plus faible coût, en fait.
Un peu industriel, il y a des machines spéciales,
voilà.
Ça.
Tandis que moi, c'est bio.
Oui, c'est bio, c'est bon, c'est fait pas loin.
Elles sont bonnes.
Elles sont vraiment délicieuses, hein, moi.
Ah, c'est un régal.
Mais le petit monsieur que j'ai rencontré me dit, moi, c'est impossible que je m'aligne avec ces prix-là. Et c'est beaucoup plus artisanal.
Question d'échelle.
Et ouais, je pense que c'est une question d'essai. Non, ce ne sont pas des vraies pâtes, c'est pareil, avec du blé tendre. Il les agrémente, il les aromatise avec des tomates séchées, des choses super sympas. Mais tu vois, c'est vraiment artisanal.
Tu mets des pâtes.
Il est dans le perche.
Mais ces pâtes nature, elles sont à 10 euros le kilo aussi.
Ouais.
Mais regarde celle que vous avez à l'univers local, c'est de Nîmes.
C'est pareil,
je crois. Celle de Nîmes, mais là, c'est vraiment artisanal.
Voilà. C'est pour ça que je lui ai dit que se rapprochait de l'or.
Celle que faisait Roy, c'était ça aussi, les moins chers, c'était 6 ou 7
euros. Mais alors, eux, ils avaient du blé dur.
Et eux, c'était du blé dur. Mais ils ont même
ils avaient fait relancer la production en Île-de-France. Ouais.
Ça prend du temps quand même de s'organiser comme ça, collectivement, pour avoir des produits locaux, bio, le moins cher possible. Comment vous faites? Vous direz sur les prix, vous êtes méchant ou vous êtes vraiment juste, équitable?
Non, en fait, le principe est de rémunérer le producteur, donc on privilégie donc les circuits courts et circuits de proximité. C'est-à-dire au départ, pour commencer à organiser la coopérative, on est passé par une centrale d'achat qui s'appelle Terra Libra, une petite centrale d'achat qui est passée en Bretagne. Et depuis, notre démarche est de systématiquement, chacun de nous, chercher les producteurs locaux. On continue avec Terra Libra parce qu'il fallait amorcer l'épicerie. Et au fur et à mesure, on cherche les producteurs, un maximum de producteurs le plus près possible. Et on se les redistribue entre nous, puisque c'est le fonctionnement du groupement d'achat, au prix où ils ont été achetés.
Et alors, quel produit? Qui c'est qui peut me faire un petit inventaire à la Prévert?
Il y a tout ce qui est sec, je sais pas, des pâtes, des céréales, de la semoule, puis sinon il y a de l'huile, chocolat, pâte à tartiner, puis il y a des produits d'entretien, des produits de soins. Qu'est-ce que tu dis? Farine? Ouais, j'ai dit céréales.
Pâtes.
Légumineuses.
Des biscuits.
De l'huile.
Des rillettes.
Du papier toilette.
Du thé.
Des fruits secs.
Du café.
Fruits secs.
Tout ce qu'on trouve dans un placard.
Des épiceries plutôt dans notre cuisine.
Des épices.
On travaille avec la centrale d'achat Andine, qui est basée à Saint-Denis et qui, en fait, et depuis plus de 25 ans, en fait, travaille sur le commerce équitable. Et donc, c'est l'exception au local, puisque le café, le sucre, le chocolat viennent d'Amérique du Sud, entre autres, parce que ça permet de, au loin, de rémunérer les petits producteurs dans cette démarche-là. Donc, il y a des exceptions, mais les principes restent les mêmes.
Pour vous, ici aussi, c'est militant, quoi. Vous ne faites pas une épicerie juste pour vous rencontrer, bavarder à propos des lentilles qui sont bonnes.
Aussi.
Parce que ça se voit que vous êtes content de venir faire vos courses. D'ailleurs, on ne dirait pas que vous faites vos courses.
Ben voilà, exactement. En fait, on ne fait plus nos courses vraiment. Mais c'est vrai que ça change, en fait, du tout au tout. C'est tout l'inverse de ce qui se passe dans les supermarchés où on fouille les caddies à l'entrée. Il y a des caméras, il faut présenter sa pièce d'identité si on paye par chèque. On est toujours suspect. Alors que là, au contraire, c'est basé complètement sur la confiance. C'est-à-dire que chacun vient faire ses achats et ensuite va les enregistrer, fait un peu le caissier ou la caissière. Et puis, il y a de la solidarité, c'est-à-dire que sur cet outil, chacun a un compte personnel qui vient approvisionner quand il dépose un chèque. Et puis, quand il enregistre ses achats, ça vient décompter de son compte le prix des produits. Et puis, il y a un adhérent virtuel qui s'appelle Monsieur l'Indépendant, sur lequel l'association met des sous à travers les adhésions, qui permet à chacun, librement, sans contrôle, qui peut être utilisé pour, s'il y a des fins de mois difficiles, si on en éprouve le besoin à un moment ou à un autre. Au lieu d'utiliser son compte, on utilise le compte de Monsieur l'Indépendant pour enregistrer ses achats. Voilà. Et donc ça, c'est fait en toute discrétion. Il n'y a pas de suivi. On ne sait pas du tout qui utilise Monsieur l'Indépendant. On sait effectivement les sommes qui sont décomptées puisqu'on voit le solde du compte. Mais on ne sait pas qui l'a utilisé. Donc ça, c'est vraiment basé sur la confiance.
Et puis on fait aussi des fêtes tous les 2-3 mois, je crois. Parce que aussi, l'autre idée, c'est d'essaimer, qu'il y ait des collectifs qui se créent pour faire un peu ce qu'on fait déjà. Parce que vu la taille des placards, on ne peut pas accueillir énormément de monde. Et lors des fêtes, on essaye de faire collectivement un repas, de communiquer autour de ce jour-là, d'avoir un débat qui peut être militant ou festif.
D'accord. Alors, on doit vous dire, c'est pas sympa, vous enlevez des emplois, vous prenez... Non, on vous a jamais dit ça ?
Encore.
Parce que si tout le monde faisait comme vous, il n'y aurait plus de supermarché, plus de réseau de distribution, plus de caissière. Vous en êtes content?
C'est pas tant qu'on en est content, mais on va dire que les supermarchés sont pas là pour créer un emploi qui soit durable, pérenne, de qualité. Et en plus, les produits qu'on scanne arrivés à la caisse ne sont pas des produits de bonne qualité, ne sont pas des produits locaux, ce sont des produits qui ont fait des milliers de kilomètres. Et du coup, nous, à l'Indépendante, on est là pour d'abord privilégier la solidarité entre les producteurs et le consommateur, entre les consommateurs, entre nous. Et puis surtout, on est aussi tous plus ou moins du 18e arrondissement de Paris. Ce qui fait qu'on se retrouve entre gens du quartier et il s'établit... des liens sociaux, on rencontre des gens, on rencontre des amis, et après on se voit aussi à l'extérieur. Enfin, ça, c'est une autre manière de concevoir la vie, c'est une autre manière de voir ce qu'on appellerait communément la consommation qui n'en est plus une, parce qu'on ne consomme pas de la nourriture, on se nourrit, ça nourrit le corps, l'esprit et les liens sociaux. Et c'est ça qui est important, parce qu'on a... On a besoin de bien manger pour être en bonne forme, comme le dit la médecine chinoise. La première médecine, c'est l'alimentation. Et voilà, donc oui, les supermarchés, à un moment donné, vont se retrouver en peine. Mais chacun son problème, on va dire.
Voilà,
donc ça veut dire les petits producteurs locaux.
Et puis on aide les producteurs locaux aussi à pouvoir vendre des produits que eux-mêmes ont du mal à vendre. Monsieur de Valence là qui va arriver cet après-midi, il a du mal à vendre ses propres produits parce que c'est pas facile tous les jours, parce que les fins de mois sont difficiles pour lui aussi, parce qu'il y a la pluie, il y a la grêle, il y a des choses comme ça, et c'est pas les supermarchés qui viennent en solidarité avec ces personnes-là. Donc nous, c'est aussi notre rôle, c'est on est humain et on veut vivre comme ça.
Thank you. Non, mais elle a raison. Mais tout à fait, c'est ce que je disais. Quoi. C'est, il y a les externalités du prix bas. Quoi. Et ça, c'est jamais présent dans les pubs qui nous submergent. C'est pour ça qu'il faut aussi arrêter la publicité.
Ouais. Pourquoi Areva fait de la pub si c'est pas pour les tenir par les couilles, les médias?
Le prix bas, en fait, pour vous, à l'indépendante, c'est absolument pas ce que vous cherchez.
Non, il faut absolument lutter contre l'idée qui est une idée très dominante dans l'organisation de nos sociétés occidentales du prix bas, qui est un prix bas qui ne contient pas en vérité toutes les externalités, ce qu'on appelle les externalités du coût de revient. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on paye un prix bas, bah, ça veut dire qu'un producteur est étranglé. Par exemple, il faut savoir que dans tous les supermarchés, les producteurs qui sont obligés d'aller avec eux, puisque c'est eux qui détiennent le monopole de la distribution, eh bien, tous les producteurs qui travaillent avec les supermarchés sont étranglés. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à survivre de leur travail. Donc c'est un problème. Et donc on ne peut pas lutter contre le chômage en vantant des prix très bas. Donc nous, on pense qu'il faut que les prix soient justes, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils rémunèrent d'une façon équitable le producteur. Voilà.
C'est quoi les externalités? Tu peux nous donner des exemples?
Il y a eu une étude qui a été faite par l'Union européenne, donc ils ne sont pas des militants radicaux hein, comme nous, mais qui sont des gens sérieux, donc qui sont des experts, les gens qui passent à la télévision. Et ils ont regardé, ils ont établi que... C'est une étude qui a été faite il y a 15 ans aux États-Unis. Ça a mis 15 ans pour arriver jusqu'à nous. Ils ont constaté qu'il y avait 600 milliards de frais de santé qui étaient induits par l'utilisation des pesticides. Voilà qu'est-ce que c'est une externalité. C'est-à-dire qu'avec les pesticides, on ne paye pas cher les produits dans les supermarchés, mais à côté de ça, l'État français est obligé de payer donc sa part pour soigner les gens qui subissent les préjudices de ces pesticides. Voilà, c'est ça les externalités. Et ça, on n'en parle jamais à la télévision, dans les publicités, on n'en parle jamais parce qu'il ne faut pas en parler, parce que sinon ça met en péril l'organisation pyramidale de notre société qui fait que 1% gagne énormément et que tous les autres sont en train de souffrir et de mourir. D'un point de vue collectif, par rapport à l'organisation d'une société, c'est-à-dire d'un groupe, manger bio, c'est moins cher que de manger les produits de supermarché à bas prix.
Ce sera des emplois différents, ou du travail différent, où il y aura plus de relations humaines, je dirais, en direct. Voilà, parce que caissier, c'est pas le bonheur. Voilà. Et puis, tous les bénéfices qui sont faits sur le dos des caissiers, des caissières qui sont mal payés, sur le dos des producteurs, les produits, il faut que ça soit bas pour faire des marges. Et les marges, finalement, qui vont dans les carrefours et compagnie, à quoi elles servent, finalement, qui elles engraissent, entre guillemets. Donc, vaut mieux que bah, toutes ces marges, finalement, elles aillent à des gens qui produisent, qui travaillent la terre, qui transforment les produits bien comme il faut, qui font des choses de qualité. Et c'est un peu ça qu'on essaie de soutenir.
Et finalement, si ce sont des petits producteurs, ça fait plus d'emplois que l'agro-industrie.
Je n'ai pas expliqué le fonctionnement des grosses industries qui ne cessent depuis les années fordistes de créer des économies d'échelle en réduisant l'homme à l'esclavage. Après avoir tenté de faire croire qu'on détruisait la traite des Noirs, maintenant, on fait la traite de tout le monde. Donc, moi, je préfère qu'on s'aime. Et puis, on n'est pas obligé de s'opposer. Vous avez posé la question, mais ça détruit des emplois. Enfin, ça détruit...
Surtout, ça les détruirait si ça se généralisait. Et si ça se généralisait, on aurait tous à manger. Donc, à la limite, si on n'avait pas à travailler autant, c'est pas très grave non plus.
Bravo. Bravo.
C'était l'ours et la carotte, écoutable sur Internet.